1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Are we on the air? Are we on the air?
Oh, salut les PD!
Ich will keine Schokolade. Ich will lieber einen Mann. Ich will einen, der mich küssen und um den Finger wickeln kann. Ich will einen, der mich küssen und um den Finger wickeln kann.
SLP, salut les PD. On entame cette semaine notre troisième, on fait notre troisième escapade in Tataland dans le district de Goudouville, ou peut-être est-ce l'inverse, Ariane, je ne sais plus.
Qui va dans quoi ? Mais d'habitude, ils ne vont pas ensemble, justement. Enfin,
Ils vont main dans la main, parfois.
Oui, nous sommes
aussi
allés main dans la main.
Ghislain, qu'en penses-tu ?
Je ne fréquente pas ces gens-là.
T'étais assis à côté de moi, fais gaffe. Hein.
Et donc, là, on était salle Nogaret, puisque l'APGL organisait un débat, une rencontre. En fait, elle avait invité cette association des parents gays et lesbiens, parents et futurs parents.
Bravo.
Donc, aux abords des présidentielles, avaient convié un certain nombre de politiques de tous les partis. Tous ne sont pas venus.
Ils avaient convié tous les partis politiques.
Voilà, voilà. Et seuls certains représentants sont venus. Bizarrement,
et devinez lesquels ?
Plutôt des partis de gauche ou centre-gauche ou un petit peu centre-droit, puisque le MoDem était là.
Ouais.
C'était le parti le plus à droite, hein, le MoDem, le parti représenté.
Après, c'était que les partis de gauche.
Et après, c'était les partis de gauche. Donc, effectivement, il y avait le Parti Socialiste. Représenté par
Anne-Yvonne Le Dain.
Voilà. Les écologistes, EELV, représenté par
Jean-Louis Roumégas.
Le Front de Gauche, qui avait deux représentants.
Eh oui, bah oui, ils sont à plusieurs, donc ils viennent à plusieurs.
Donc René Révol et
Cédric Sud pour le Parti communiste.
Voilà, on oublie une représentante, je me souviens plus.
De Avenir 2012,
oui, voilà, c'est ça.
Représentante locale de la candidature de Brigitte Goldberg, qui n'a évidemment pas reçu
les 500 signatures. Et tu te souviens du nom de la représentante ? Ce serait peut-être bien de la citer éventuellement, sinon on retrouvera son nom.
Voilà, je le mettrai sur Internet, parce que là, ça me revient pas. Et donc, attends, on cite donc quand même Monsieur MoDem local, Hadj Madani, parce que
j'avais oublié.
En fait.
Ouais. Mmh, tu as raison.
Et donc, il manquait l'UMP, le Front National.
Ah non, mais je crois qu'ils ne l'ont pas invité, le Front National.
Ah, d'accord.
L'UMP l'était, en tous les cas.
Oui.
Mais aucun représentant n'est venu.
En tout cas, au niveau de la ligne de l'intérêt LGBT, qui avait aussi convié au National tous les représentants, et là, eux-mêmes, les candidats, ils se sont expliqués de n'avoir pas invité le Front National. Puisque argumenter et travailler sur le terrain à contrer leurs idées, soit, mais leur proposer une tribune, non.
Mmh.
Voilà, c'est comme ça que ça a été expliqué au niveau national.
Alors, l'objet de la conférence, c'était un petit peu, enfin, des conférences, débats, oui, c'était de mesurer un petit peu les implications de ces différents partis politiques dans les questions, les enjeux LGBT. Et
en fait, tout simplement, la PGL a adressé sa liste de revendications avant la réunion. Mm-hmm. Et une partie de la réunion a consisté à la réponse point par point par chacun des représentants. Mais je vous ai épargné cette chose rébarbative.
Donc on va commencer par un son. Donc c'est Anne-Yvonne Le Dain, la représentante du Parti Socialiste, qui s'exprime de façon assez générale sur l'éducation sexuelle au collège, au lycée. On l'écoute.
SLP, l'émission qui vous trouve le cucu.
Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il me semble que c'est en 2002, la gauche avait voté une loi qui faisait obligation d'avoir 3 sessions d'éducation sexuelle à l'école dans la scolarité de l'enfant. Cette loi, les décrets d'application n'ont jamais été pris. Jamais été pris. C'est la droite, la laminée. Qui en parle ? Qui en parle ? Personne. Parce que finalement, le non-dit, c'est pas plus mal. D'abord, ça évite de dépenser de l'argent. Donc, l'absence d'éducation sexuelle à l'école, c'est un vrai drame humain. Et ça touche bien évidemment aussi les homosexuels. Évidemment. Donc, c'est parce que justement, comme on parle de rien, on parle encore moins de ça. Donc, je voulais souligner. Deuxième chose. C'est embêtante, hein. Ouais. Enfin, à venir, on en parlait. Hein. Parce qu'il y a 5 ans, la seule question, au fond, quand était sur la table, c'était la question du mariage. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Et tout le reste était dans le non-dit. Là, maintenant, ça y est, on peut parler, quoi. C'est bien. Ça nous aide.
Alors, effectivement, ce qu'elle pointe, Anne-Yvonne Le Dain, c'est que, quand même, par rapport à 2002 et même 2007, finalement, la plupart des partis politiques ont tenté de prendre des positions par rapport à ces questions, non seulement union homosexuelle, homoparentalité, adoption, etc. Et qu'il y a une évolution quand même qui est très sensible ces 5 dernières années.
Alors moi, je me souviens de 2007, la LGP avait organisé la même chose, en fait, une réunion politique juste avant la présidentielle, où elle avait combiné tous les partis politiques. Et donc, et là, il y avait l'UMP qui était venu. Et ce que souligne Anne-Yvonne Le Dain, c'est qu'en fait, à l'époque, c'était des revendications autour du mariage. Et on parlait que de ça. On parlait à peine de l'adoption. C'était vraiment sur le mariage. Et les partis s'y étaient déjà penchés à l'époque. Et alors, avec plus ou moins de bonheur suivant les partis. Mais
oui, certains plus que d'autres quand même.
Certains, de toute façon, comme les Verts, par exemple, oui, s'y penchent depuis très longtemps. Mmh. Voilà, mais disons que ils avaient une réflexion. Et moi, j'avais noté que l'UMP était là. Alors, ils disent des choses absolument horribles, mais ils étaient là. Cette année, ils ne sont même pas là.
Mmh. Bah, c'est Ariane. Aussi que ce n'est pas la LGP qui organise. Ouais, c'est pas la première association en représentation locale, quoi. Donc, et il y avait ce gros rendez-vous national qui était organisé très peu de temps en suivant.
Ouais. Oui, mais bon, les députés locaux, en plus, le monsieur qui était venu, je me souviens, c'était un monsieur qui était à Villeneuve d'Avignon, tu vois, c'est pas la porte à côté, quoi. Mmh. Et il avait quand même fait l'effort de venir. Et là, il n'y a pas. Donc, ce que je vois, c'est qu'il y a une avancée, le PS réfléchit plus large, je trouve. Les Verts continuent à réfléchir. Le Front de gauche a une réflexion qui est hyper intéressante, justement, et à laquelle on ne s'attend pas forcément.
Particulièrement localement, avec René Révol, on va l'entendre.
Ouais, et je trouve que au niveau de l'UMP, c'est la régression totale, quoi. Mmh. Bon, et le MoDem bouge pas. Ils ont toujours une version démocrate chrétienne.
Oui, mais c'était complètement... par rapport à l'UMP, je pense que c'était peut-être difficile pour des représentants plus ou moins locaux de venir, compte tenu des dernières déclarations qui nous ont été rapportées par Douane. Le pauvre, il s'était retrouvé à être le porte-parole en la matière, ce qui était un petit peu étrange. Et de la même façon, nous, ce qu'on a entendu dans la bouche de Hadj Madani, on sentait bien qu'il était...
représentant du MoDem, donc.
Voilà, qu'il expliquait la posture... de son candidat par son histoire de démocrate chrétien et qu'il y avait des choses qui bougeaient mais qu'il y avait certains symboles qui étaient difficiles à déplacer. Après, son sentiment personnel était très différent, quoi.
Oui, bien sûr, mais c'est là,
ce qu'il a laissé entendre.
Ce qui nous intéressait, c'était justement ce que disaient les partis et les candidats. Voilà, quoi, c'était ça qui était intéressant.
On écoute une seconde intervention, c'est René Révol qui s'exprime sur le Code civil et sa nécessaire évolution, peut-être.
L'importance que revêt la modification du Code civil. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas avancer si vous ne modifiez pas fondamentalement le Code civil. Et c'est ce que nous proposons dans notre programme, et notamment pour la reconnaissance du parent social. C'est-à-dire y compris que disparaisse du Code civil la notion de père et de mère, qu'on mette à la place la notion de parent. Et c'est la seule évolution qui pourra garantir juridiquement quelque chose. Ça me paraît tout à fait essentiel. Parce que sinon, on est dans la généralité et ça ne garantit pas une réelle évolution. Et en posant la question du parent social, on pose le problème de manière extrêmement large, que la question du parent social, vous avez vu, elle est venue poser, mais elle n'est pas venue d'abord, elle est venue dans les familles recomposées. Donc on cherchait à éliminer les couples du même sexe dans la discussion. Et donc c'est une manière de régler de faire avancer sur cette question-là.
Donc on le rappelle, c'est René Révol, représentant du Front de Gauche, ouais. Qu'on maire avait reçu au maire de Grabel, qu'on avait reçu à ce micro il y a quelques années.
C'était pour les régionales.
Exact. Intéressante hein, quand même ce que proposent les évolutions proposées par le Front de Gauche, en l'occurrence René Révol. Effectivement, il parle de cette nécessaire évolution pour que des droits soient acquis. Effectivement, ça passe par la nécessaire modification du Code civil. Alors, la mairie de Montpellier, je crois, a pris l'initiative au niveau des formulaires d'inscription des enfants à l'école. La notion de père et mère a disparu, c'est ça hein, c'est ce qui a été évoqué ce soir-là.
Oui, il y a donc Cédric Sudre qui était là aussi ce soir-là, oui. A participé à ce projet-là, mais c'était largement aussi l'impulsion de la PGL, parce que oui. Jusque-là, il y avait pas mal de formulaires qui étaient raturés pour deuxième au niveau d'un des deux parents, puisque la mention genrée ne convenait pas. Mmh. Et voilà, donc ça a été quelque chose qui s'est fait en concertation. Et on l'a vu, on l'a entendu la semaine dernière, d'autres villes vont y venir suite à cette première-là. Mmh. D'ailleurs, pendant la soirée, le maire de Grabel a dit à l'oreille de son voisin Cédric Sud, dis-nous, il faut qu'on le fasse aussi pour Grabel.
ce qui me paraît intéressant dans l'intervention de M. Revol, c'est que nos revendications à nous, c'est-à-dire les problèmes que nous, on rencontre dans notre quotidien, dans les familles homoparentales et tout ça, eh bien, en fait, sont des problèmes qui concernent non seulement les homos, mais toute la société en entier. Mmh. Et ça, c'est ce qu'on raconte à SLP depuis quelque temps. Et puis, ça se vérifie chaque jour. Et là, les politiques commencent à...
À en prendre conscience.
Ouais. Mmh.
Certains au moins, parce qu'on a eu le mouvement inverse visible pendant la soirée. C'est-à-dire que, voilà, EELV, en termes de mouvement, ils ont une commission qui travaille sur les problématiques LGBT et c'est super avancé. Mais le représentant local, en l'occurrence...
était un peu moins au courant. Ouais.
Il a découvert récemment, effectivement, ces questions-là.
Mais en fait, c'est tout le problème, justement, des représentants des partis. C'est-à-dire, je trouve que l'exemple d'Europe Écologie, là, a été vraiment flagrant. C'est-à-dire, vraiment, ils ont une commission qui avance. Ils sont très avancés au niveau des droits LGBT. C'est vraiment...
Ils ont été précurseurs.
Ah, ils ont été précurseurs. C'est vraiment une super réflexion. Et c'est vrai que Rouméga, c'était là, il a fait le minimum syndical avec ce qu'il connaissait lui,
oui.
Mais c'est vrai qu'il était très en dessous de ce que proposent les parti. Verts. C'est, donc, la question du représentant, de comment le message passe et qui le fait passer.
Voilà, la dichotomie qu'il peut y avoir entre ce que porte un parti et comment la parole est portée à un niveau local.
Et c'est le contraire avec le Front de Gauche, avec Mélenchon qui, dans ses discours, est plutôt très généraliste sur l'ouverture des droits, c'est très bien aussi, il parle de diversité, il parle de choses comme ça, alors qu'on l'a vu avec Revol, il a vraiment une réflexion qui, elle aussi, est assez avancée.
Oui, beaucoup plus pointue.
Oui.
On l'entendra encore plus tard.
Parce qu'en fait, ce qui est intéressant dans son discours, c'est qu'il le replace dans des problématiques plus générales, plus globales, qui dépassent le cadre des questions LGBT. Prochain son sur la coparentalité, je crois. On écoute ça.
La coparentalité, ça pose la question, quand il y a quatre parents, de la place de chaque parent dans l'éducation de l'enfant. Et c'est vrai, et ça, c'est une réalité, parce qu'aujourd'hui, pour le coup, on dit que... on veut l'égalité parce qu'on a ces types de familles, les familles homoparentales qui existent. Mais ces familles-là, où il y a coparentalité, existent aussi. Donc, moi, je me place aussi du côté de l'enfant, du droit de l'enfant. Qu'est-ce qu'on fait alors qu'il y a quatre parents? Comment on fait pour reconnaître qu'il y a quatre parents qui participent à l'éducation, qui participent au développement de l'enfant? Donc, c'est une question que nous pose au Front de Gauche. C'est est-ce qu'il faut un statut de coparentalité, d'éducation, etc., mais pour reconnaître aussi, et c'est bien au-delà que de la question du statut du beau-parent. On est bien au-delà, même si ça c'est un autre débat, et aussi il faut poser la question, il faut qu'on ait une véritable reconnaissance du statut des beaux-parents. Quelque chose qui doit nous interpeller et qu'il faut qu'on continue à approfondir.
Ce qu'on est en train de définir là, ça dépasse simplement le simple cadre de l'homosexualité pour la plupart des points, en fin de compte. Hein. Ce débat-là a été mis en exergue l'année dernière, et ce sont les juristes en fait, qui ont dit que là, il y avait une problématique. La problématique, c'est comment poser un cadre juridique. C'est-à-dire qu'on peut avoir en effet des séparations de couple, après des compagnonnages, des ceci, des cela, ça peut être multiplié, mais comment le cadrer à un moment donné? Et là, la complexité, elle est là.
Parce qu'il n'y a pas de mots actuellement, que ce soit dans le langage juridique ou dans le langage du quotidien, il n'y a pas d'appellation pour les coparents. C'est quelque chose qu'on avait un petit peu évoqué avec la disparition de certains termes qui regardaient par exemple l'oncle du côté maternel ou l'oncle du côté paternel dans les travaux de Maurice Godelier.
Oui, on l'avait évoqué l'année dernière. Et oui, les structures familiales sont complexes et c'est pas... Là, ce qui est intéressant, c'est que c'est... On le voit sous un angle politique, théorique, mais on part du terrain et donc des familles avec deux parents, un parent, mais aussi trois parents, quatre parents, et ben oui, ça existe. Donc comment on fait avec tout ça, quoi?
Ouais, et ce qui est important aussi, c'est qu'ils disent que les politiques s'en emparent et qu'ils parlent de cadre, c'est-à-dire d'encadrer les choses. Parce que, je ne sais pas si on a des sons là-dessus, je ne me souviens plus, mais Anne-Yvonne Le Dain l'a répété plusieurs fois dans la soirée, le côté complètement aléatoire de la jurisprudence.
Oui.
C'est-à-dire que tant que les choses ne sont pas encadrées, en fait, les juges peuvent décider ce qu'ils veulent, peuvent interpréter la loi comme ils veulent. Enfin, la loi ou pas la loi, du coup, parce qu'il n'y en a pas.
Mais, un coup pile, un coup face.
Ouais, hein. Voilà. Donc, c'est complètement aléatoire et arbitraire, on va dire.
Pause musicale, et puis on revient pour débattre d'autres questions.
J'ai besoin de romance, un peu de...
Alors là, on est dans une faille spatio-temporelle totale.
Ouais, j'adore.
Ouais, moi aussi, j'étais en CE2.
Moi, j'étais en quatrième.
Il paraît que j'étais pas née, c'est pas ça que vous m'avez dit.
Mais non, t'étais pas née. Non, en fait, ça, c'est clair, t'étais voilà, pas née. C'était Lio, Amoureux solitaire.
Moi, je connais cette chanson.
Bah oui, tout le monde la connaît. Mais en même temps, c'est bien de la rediffuser. Enfin, tout le monde la connaît, je suis même pas certain. Mais en tous les cas, elle est à redécouvrir. Hein.
Ouais.
On retourne à notre petite conférence politique organisée
avec la
par
faille
la PGL,
temporelle à fond grande ouverte.
À fond grande ouverte, on s'y engouffre. Le prochain son, on parle de accouchement sous X.
En parlant de faille ouverte,
voilà. Oh là là. C'est audacieux. On écoute Anne-Yvonne Le Dain à ce sujet, représentante du Parti socialiste.
J'ai été soulevée par l'un d'entre vous tout à l'heure sur la levée d'accouchement sous X. Tout se passerait comme si finalement un enfant était le produit biologique d'un père ou d'une mère qui lui serait indu. Surtout quand c'est une mère, parce que celle-là, elle existe. Et en tout cas, elle est écrite dans des papiers. C'est vrai que la France est un des rares pays au monde à avoir l'accouchement sous X. Pour autant, c'était une protection. Ça a été une énorme protection sociale des femmes à la fin du 19e. Au lieu d'aller avorter, de risquer leur vie, ou d'accoucher dans la rue et de laisser les gamins dans la rue, dans la flotte, la misère et le froid, la femme était accueillie, soignée, encadrée, et l'enfant était accueilli, soigné, encadré, certes par les bonnes sœurs et par l'hôpital public, l'hospice public. Il n'empêche qu'aujourd'hui, c'est une sécurité. Et non, vous savez combien il y a d'accouchements sous X actuellement en France, chaque année? Il y en a plus qu'il y a 10 ans. Ça augmente. Du fait que notre société a complètement abandonné la sexualité en renvoyant ça aux individus et en ne faisant pas de la sexualité une question politique. Je crois quand même que c'est une protection et que ça va bien au-delà du droit aux origines. Ça a été la première fois que dans le monde, la femme et le corps de la femme, d'une certaine manière, elle en a été la responsable. On sait bien que c'est la grande bourgeoisie aisée parisienne qui protégeait les filles plutôt que de les envoyer accoucher en Suisse. On sait bien que ça vient de là historiquement. Et il n'empêche qu'au bout du compte, c'est une protection.
On est parti loin. Hein.
Ouais, on est parti loin. Mais c'est passionnant quand même parce que parmi les partis les plus progressistes, on sent bien quand même, alors ils sont plus ou moins avancés, mais qu'il y a des questions sur lesquelles, de toute façon, ils s'accordent ou s'accorderont dans les années qui viennent, a priori. L'union, ouais, enfin moi je crois ça, l'union, même les problématiques autour de l'homoparentalité, l'adoption, mais il y a des sujets quand même sur lesquels même parmi les plus progressistes, il y a donc l'accouchement sous X, la gestation pour autrui, la GPA, il y a vraiment des positions qui s'affrontent avec derrière des partis pris presque déontologiques, on
oui,
va dire.
De l'ordre du postulat philosophique ou social, ouais, complètement.
Mais c'est des questions passionnantes hein, qui sont loin d'être réglées, mais qui méritent vraiment d'être posées.
Et moi, je ne suis pas si enthousiaste. Enfin, vas-y, Gisèle, si tu veux.
Non, mais en fait, moi, je trouvais intéressant...
Je suis pas enthousiaste,
non,
je
mais
suis...
t'es optimiste,
oui,
franchement,
plutôt,
quoi.
Oui, oui, oui.
Bon, moi, je suis d'accord avec Philippe. Mais il y a un truc, quand même, qui est étonnant, justement, dans ce truc d'accouchement sous X, c'est-à-dire que, c'est ce qu'on disait dans d'autres émissions, au PS, il y a quand même une espèce de bien-pensance
oui.
qui fait qu'on reste, même si on est quand même très ouvert, etc., on reste prisonnier de certaines choses qui ont pêche d'avancer, et notamment bon, sur la GPA et tout ça, mais sous l'accouchement sous X aussi, c'est-à-dire que voilà, le droit aux origines, il faut que les enfants puissent savoir de qui a accouché d'eux, etc. Je trouve que Anne-Yvonne Le Dain, là-dessus, elle va un peu à l'encontre de la bien-pensance de son parti, et je trouve que ça fait du bien.
Mmh. Ah oui, mais pour le reste, sur le côté le corps de la femme... sur la crainte de la marchandisation du corps de
ah oui,
la
oui,
femme.
Là-dessus, je ne suis pas d'accord avec elle, voilà. Oui, bien sûr. Mm. Je ne suis pas d'accord avec elle quand elle parle de la GPA. Mais,
ou de la prostitution, parce qu'elle
la prostitution,
elle est
ouais,
cohérente là-dessus. Hein.
Oui, oui, bien sûr. Mais je trouve que là, sur l'accouchement sous X, je trouve que ça fait du bien d'entendre le petit rappel historique qui nous rappelle d'où ça vient, pourquoi ça a été mis en place et encore aujourd'hui, à quoi ça sert. Mmh. Et elle disait ça juste pour pourquoi elle en est venue à parler de ça. C'est parce que dans les revendications de la PGL, il y a la levée de l'anonymat, je crois, sur le don de gamètes, ou ce genre de choses-là. Voilà. Et donc on en est venu. Là, ça protège les donneurs de sperme, cet anonymat-là. Mmh. Et ça me paraît très important de le garder parce que tant que la filiation repose sur le lien biologique, ça me paraît important d'avoir cet anonymat-là parce qu'un donneur de sperme, il n'a peut-être pas envie 20 ans après qu'il y a un môme qui vienne et qu'il ait des droits, enfin cet enfant ait des droits
lui demander une pension personne. Ou autre.
Voilà, bien sûr, parce qu'aujourd'hui, la filiation est basée sur la biologie.
Il nous reste deux sons à écouter.
Oups.
Et je vais vous faire la transition, puisque je te trouve bien optimiste, parce que parfois, oui, on ressent des mouvements dans la société progressiste, mais on est souvent, on se heurte souvent à des chefs ou des élites qui sont crispés et qui s'imaginent que la plèbe n'est pas prête à et qui bloquent, du coup. Et c'est un peu ce qu'on va entendre.
On écoute.
Ce qui s'est passé depuis 2002, c'est une régression généralisée. Et je pense qu'il faut poser la question de l'éducation sexuelle, de la lutte contre l'homophobie à l'école. Il faut commencer à la poser dans la formation initiale. Il y a 6 ans, puisque j'enseignais aussi à l'UFM de Montpellier, j'ai fait la proposition de la mise en place d'un module sur ces questions. Et bon, le débat a été ouvert, mais il a finalement été refusé par la direction alors que les professeurs étaient prêts à le mettre en place. Ce qui fait que il y a eu régression de la légalité, il y a eu régression, mais il n'y a pas eu régression du côté du corps enseignant. C'est-à-dire qu'il y a une bataille des enseignants. Moi, je peux dire que chaque année, il y a des éléments du programme qui sont amenés à mobiliser pour participer de ça. Donc aujourd'hui, la majorité du corps enseignant est disponible pour un renversement des choses et pour l'intégration au programme de ça. Donc ça doit être présent dans la formation initiale des enseignants. Alors, je vous signale que la formation initiale des enseignants, tout court, disparaît. Donc tout disparaît avec. Et donc le gars qui réussit son CAPES, son concours des PE, etc., alors le gars ou la fille, à la rentrée suivante, il est dans une classe. Donc le problème de sa formation, il se l'a pompé tout seul. Donc on est dans une régression généralisée. Donc la formation initiale, l'intégration au programme, en le mettant à la fois de manière transversale et précisément dans différentes disciplines pour aboutir à ce que le prof de français comme le prof de biologie, etc., aborde cette question, etc., c'est une bataille qui avait commencé. Et de ce point de vue, il y a d'autres pays qui ne sont pas nécessairement des pointes avancées du socialisme qui ont continué cette évolution, cette formation. Alors qu'ici, on a eu un phénomène réactionnaire. Donc,
alors, formation, évolution, c'est les questions que pose René Rivol. Je propose qu'on enchaîne tout de suite sur le son suivant et on conclut derrière, puisqu'on est à la fin de l'émission.
Pour moi, il faudrait remonter et poser la question qui apparaît secondaire dans vos revendications et qui, à mon avis, essentielle, c'est l'enseignement de la diversité des formes familiales. Comme je l'ai enseigné pendant toute ma carrière, et que je me suis heurté aux représentations dominantes, et que si on montre la diversité historique, ethnologique des formes familiales, on permet aux jeunes d'affronter et de comprendre la diversité des formes familiales contemporaines. Et ça apparaît quelque chose de secondaire, mais d'essentiel, parce que les décisions politiques, elles doivent aboutir à modifier les représentations dominantes. Sinon, elles ne font qu'épouser les représentations dominantes et à ce moment-là, elles deviennent conservatrices. Je dis ça, c'est important, parce que la tendance générale, c'est de naturaliser la famille. Naturaliser, c'est-à-dire de trouver des origines biologiques, alors que la famille est une création historique et sociale. Et donc, nous participons de cette création historique et sociale quand aujourd'hui, nous sommes amenés à légiférer sur une nouvelle forme familiale.
Déconditionnons, en fait. Hein. C'est ça, le mot d'ordre. Hein.
Ouais, et relisons Godelier.
Maurice,
ouais.
Notre chouchou, un de nos chouchous, t'es d'accord, oui. Ariane?
Non, maintenant, je voudrais lire Foucault, moi, mais bon.
Ben, on va y venir.
Il écrit quoi, Jean-Pierre?
On se dit au revoir, hein, à la semaine prochaine.
Au revoir.
Au revoir.